Aujourd'hui, à la version express de La vie est belle, les 30 plus belles minutes de ma rencontre avec la fille la plus fine du bottin de l'Union des artistes, Marina Orsini. Peu importe la plateforme sur laquelle vous nous regardez, vous nous écoutez, cliquez sur s'abonner, s'inscrire, suivre pour recevoir les alertes de nos nouveaux épisodes. Et prenez deux instants pour faire des étoiles, des petits commentaires. Ça aide le balado à se faire connaître des gens qui ne nous ont pas encore découverts. Bonne rencontre.
Balado, épisode 27. Marina Orsini.
3, 2, 1.
Moi, je me considère extrêmement privilégié et à tous les soirs, presque, en me couchant la tête sur l'oreiller, puis je le dis à voix haute, merci à vie. Quelle journée aujourd'hui, merci, puis je m'endors comme ça.
Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Marina Orsini, salut!
Allô!
Je suis tellement content.
Ben moi aussi, puis tu nous fais boire des bulles pour être certain d'entendre ce que tu vas entendre.
Ouais, c'est ça, je suis seul, mes invités. Oui. Non, mais c'est parce que moi, c'est une excuse pour boire de la boisson le jour, ce balado-là.
Ben oui, de la, boisson, des bulles, on adore. Hey, on est bien chez vous, François.
Cool. Ouais, on est vraiment, tu sais, des gens se demandent, oui, c'est vraiment chez moi. On est dans le volet saladiné.
Puis là, bon, on boit.
Ben oui, cheers!
La vie est belle.
Mais la vie est belle, ça.
Hey, merci!
T'es dans mon bucket list d'une case pas cochée encore.
Ça veut dire quoi, ça?
On n'est pas assez proches à peut-être 2-3 fois de travail ensemble, nous autres.
Oui, sur des
pas
projets.
Pas assez proches,
oui,
sur des projets.
Oui,
la vie a fait que ça n'a pas donné.
Oui.
Puis, maudit que j'aurais aimé ça.
Oui.
J'aurais vraiment
T'es
aimé
fin,
ça.
Merci.
Parce que...
Mais on s'est toujours croisés, on s'est toujours rattrapés, quand même depuis plusieurs années, que ce soit à la radio ou à la télé.
Est-ce que j'ai l'impression, ce qui est décevant, c'est que moi, j'ai l'impression que j'ai une chimie avec toi, mais je pense qu'on est 1 million à avoir ce sentiment-là. Prends-le pas négatif. Mais t'es tellement de même qu'on pense tout qu'on est amis avec toi.
T'es fin, merci. Mais moi, j'aime le monde.
C'est clair.
Je l'ai dit 100 millions de fois. Pour moi, c'est pas forçant. J'aime le monde. J'ai grandi dans le public avec mes parents. Puis, ben, même des fois, ça peut faire l'effet inverse complètement. Mais moi, à la base, j'aime le monde. J'aime les gens. Fait que pour moi, je suis bien quand je suis avec du monde. T'sais.
T'as beaucoup de rouge et de jaune.
Ben, moi, rouge, c'est ma couleur préférée.
Ben oui,
t'as-tu
c'est vrai,
vu la chemise que je porte aujourd'hui?
Toi,
mais il y a plein de cœur.
Ouais, mais il y a plein de quasiment toutes les couleurs. Le rouge, là, c'est la couleur de la proaction. Et toi, comme t'en as vraiment beaucoup, là, t'es à 79 sur 100, grand besoin d'être proactif. Toi, là, t'aimes ça, relever des défis, mais des défis difficiles et exigeants. Amenez-en. Ouais, on est capable. Tu sais, là?
Ouais. Moi, mes désirs sont toujours plus grands que mes peurs.
Ah.
Tu sais, des fois, on a peur, hein. Tu fais comme, oh mon Dieu, j'ai le goût de faire ça, mais je suis capable de faire ça. Puis en même temps, dans le fin fond de toi, tu te dis, ben, je sais que je suis capable de faire ça. Puis ça vient de ma mère. Ses désirs, elle m'a toujours dit ça. Mais faut que tes désirs soient plus grands que tes peurs.
Ce qui fait
c'est ça qui m'a drivé pas mal toute ma vie.
Ce qui fait que tu vas affronter, si on se fie aux résultats, là, des situations avec assurance et directivité.
Ouais.
Ah ouais, on y va. Mm. Puis une motivation que tu as très, très basse, c'est l'utilitaire. Ça veut dire que toi, t'es pas obligé nécessairement de faire quelque chose pour que ça rapporte. Tu calcules pas de même dans la vie.
Non, je calcule pas pour que ça rapporte. Moi, je dis toujours, je suis pas à l'argent, je suis au principe. Fait que souvent, c'est comme si on a négocié un contrat, mettons, un renouvellement.
Une chance que t'as un agent.
De contrat, ouais. Quand il y a un renouvellement de contrat, tu sais, oui, il y a des affaires que tu fais, il faudrait qu'on augmente de temps, ça fait tant d'années ou non. Mais en même temps, au bout d'un certain temps, moi, je peux dire pas de problème, pas de problème, pas de problème. Puis à un moment donné, c'est comme, garde, il y en a pas de problème, mais c'est une question de principe.
Ton ADN pur, c'est l'altruisme.
Ouais.
Fait que t'es madame humaniste.
Ben moi, je vais défendre quelqu'un. Moi, je suis capable de défendre. Moi, je vais jeter mes gants à terre. Puis, ouais, les...
Tu l'as dit.
Oui.
Puis là, c'est fascinant, quand on mélange les motivations et les couleurs.
Mm.
Toi, t'es une altruiste rouge. Tu l'as dit. Je vais jeter les gants à terre.
Ouais. J'ai beaucoup de caractère. Moi, un père italien, une mère, franco-canadienne, mais d'origine écossaise.
Puis moi, de ce que je comprends en faisant un peu de recherche sur toi, c'était pas elle l'italienne, mais c'était elle la maman.
Oui, oui, ben hein? Ma mère, c'était la plus vieille de ses quatre sœurs, en fait, et son frère. Fait que ma mère a perdu sa mère, elle avait 10 ans, fait qu'elle est devenue une maman très jeune. Puis elle a toujours été le cœur de la famille, même le cœur de toute notre famille, mes cousins, mes cousines. Ma mère, c'était le pilier central. Fait que quand elle est partie, ça va faire 8 ans, c'est sûr que c'était une grosse colonne qui est partie.
C'était la reine du régime matriarcal.
Ouais, pas mal. Ouais. Oh, oui. Fait que moi, tu sais, j'ai grandi dans ce terreau-là de femmes, quatre filles au départ. Ma tante a eu quatre filles, mon autre tante a eu une fille. Il y a beaucoup de femmes dans notre famille. Et toutes des survivantes, pas mal. Toutes des enfances, une enfance difficile. Donc, des femmes qui ont eu à être résilientes très jeunes. Moi, j'ai connu ça aussi très jeune, la résilience. Puis surtout, je dirais, moi, ce qui me vient tout le temps quand je parle de mes racines, de ma mère, de mes tantes, c'est le cœur. Nous autres, c'est le cœur qui est là en premier, dans tout. Dans tout, partout dans nos vies, c'est le cœur. Puis moi, ça a souvent, longtemps et encore, ça a toujours été le moteur principal dans ma vie. Quand j'ai quelque chose à faire, quand j'ai quelqu'un à rencontrer, quand j'ai un contrat à rendre... C'est toujours « vas-y avec ton cœur, vas-y avec ton cœur ». Tu peux pas te tromper quand t'arrives avec le cœur. Peu importe qui est devant toi. Ça va avec l'âge, tout ça, l'urgence de vivre. Moi, j'aime la vie, j'aime ma vie. Puis je suis une curieuse.
Ouais, mais ça va plus loin, c'est que t'aimes ta vie, mais tu veux qu'on aime notre vie. Parce
aussi,
que ta deuxième couleur.
T'as raison.
Ta deuxième couleur la plus forte, c'est le jaune. Puis le jaune, ben, ça le dit, là. Ben, c'est la recherche du bonheur, du plaisir, le côté
lumière,
maman italienne, la lumière. Ouais. Mais également un grand besoin d'influencer. Ce qui veut dire que toi, dans ta démarche.
Mais pour moi, c'est pas influencer, tu vois, c'est intéressant. Pas influencer, mais contribuer à.
Ben.
Contribuer à... Parce que le mot « influenceur » aujourd'hui, c'est tellement galvaudé.
Non, ben, prends pas le mot « le mot « influence » peut avoir des... Ben, influenceur, bon, on commencera pas à se mettre en costume de bain sur Instagram, là. Et de l'autre côté, le mot « influence » est souvent perçu comme quelque chose de négatif.
Oui, oui.
Mais « influencer », c'est hyper positif. C'est toi, tu t'as découvert quelque chose, tu penses quelque chose, et là, t'as comme le désir de retransmettre que le monde embarque.
Oui, ça, t'as raison.
Ta dernière motivation super forte, c'est l'idéologie.
Je t'ai
bâti, idéaliste bâti sur un système de valeurs, l'unité, la moralité, les principes. Fait que d'un coup, quand on gagne, en rebelle, on va avoir inventé une règle qui respectera pas les autres règles de la Terre. On va y suivre en tabarnak.
Ah hein? Oui, hein? C'est vraiment bon. Ah, j'aime ça, là. Ça a plein de sens. Ça résonne full en moi.
Hey, toi, t'as une année de fou, là.
Ben non, mais c'est une année de
fou. Pour tout le monde.
Pour la planète entière.
Mais tu te retrouves dans une année, ça doit être un peu paradoxal, dans une année où des fois, on a des gens qui sont restaurateurs, le restaurant est fermé, d'autres ont moins de travail. Et toi, tu t'es retrouvé, encore je parle des foutues planètes, une année où, bang, 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 ça s'est empilé. Là,
mes trois projets.
T'as dû avoir
des
agendas capotés.
Ah, complètement fou. Je faisais des fois des semaines de 75-80 heures. Là. Mais en même temps, c'était exceptionnel. Oui, on travaille fort dans une année, surtout quand t'as trois projets de front. Ça se fait à peu près sur 8-9 mois dans l'année. Là, je l'ai fait comme sur moins de 6 mois. Fait que oui, ça a été complètement fou. En même temps, tout ça dit, je trouve qu'on est très privilégiés parce qu'on a une méchante gang dans notre milieu. Et je parle même pas des autres milieux, mais il y a bien du monde qui n'ont pas de job en ce moment, qui ont de la misère à payer leur loyer ou mettre de la bouffe sur leur table. Fait que on sait tout ça. Mais sachant tout ça, ça nous empêche pas qu'on a le droit d'être fatigué, on a le droit d'être dépassé, on a le droit d'être essoufflé, on a le droit d'être tanné des fois parce qu'on est des êtres humains. Mais il reste qu'à la base... Moi, je me considère extrêmement privilégiée et à tous les soirs, presque, en me couchant la tête sur l'oreiller, puis je le dis à voix haute, merci la vie. Quelle journée aujourd'hui, merci, puis je m'endors comme ça.
Puis malgré tout, avec un horaire de fou de même, il y a des tannants comme moi qui disent, hey, prends un petit 2 heures dans ta vie, puis viens t'asseoir, puis tu dis oui.
Les tannants qu'on aime.
Ah, OK. on va mettre ça dans la colonne d'abord, c'est correct.
Les tannants qu'on aime, oui.
Je veux comprendre le début, la genèse. On va s'amuser. On va repartir à zéro. 15 ans, mannequin.
Ben oui, 14 ans.
14 ans.
Concours de mannequin, mannequin numéro 1 du Québec. Je rencontre Jean Beaune, des Classelles, là, ces gens qui animaient ça à l'époque.
Et son petit saut bleu?
Avec, oui, son cheveu graissé bien comme il faut. Je le salue, je ne sais pas s'il nous écoute, Jean. Il est toujours vivant, Jambon.
Je crois que oui. Ben Mathieu, Bellimont, s'il te plaît.
Ben oui. C'est ça. Il y a comme trois étapes. La première étape, demi-finale, finale. À travers ça, je me rends jusqu'en finale. Première étape, j'arrive première. Semi-finale, j'arrive première. Et à la dernière phase, j'arrive deuxième. Mais dans le processus, c'est là que j'ai rencontré mon agent, Ginette Achin, qui était déjà agent de mannequin. Et qui m'a invité, t'entraînes-tu de faire de la photo, d'être mannequin, peut-être des pubs à la télé, tout ça. J'avais 14 ans quand je l'ai rencontré.
C'est un rêve de petite fille, être dans un magazine.
Pas vraiment.
Non?
Non. Moi, c'était vraiment ma curiosité.
Qu'est-ce que tu faisais là d'abord?
c'est ma mère qui avait vu ce concours-là dans le Journal de Montréal. Ma mère qui avait des boutiques de vêtements.
Ah!
Donc,
ma mère est dans la mode.
Ma mère était dans mode. Ça, t'aimerais pas ça, participer à ça. Il y avait des catégories selon les groupes d'âge, section.
Puis pour ta mère, t'étais la plus belle fille sur la terre.
Ben, parce que, bon, évidemment. Puis ma mère, c'était vraiment la plus belle femme au monde.
Ah oui,
extrêmement belle. Ouais, ouais, extrêmement belle.
On t'a ramassé deux, trois gènes au passage.
C'est très flatteur. Et c'est ça, j'ai embarqué là-dedans, puis j'ai rencontré Ginette. Puis de ça, j'ai un peu voyagé. J'ai fait quelques pubs à la télé, parce que quand t'es mannequin, on va t'appeler sur des auditions pour faire une pub de bière. Moi, j'avais fait une pub de jeans, Levi's, avec Serge Dupire. Puis à un moment donné, t'es arrivé l'audition de Lancé Compte. Moi, j'étais en Suisse comme mannequin.
Fait que l'audition de Lancé Compte, tu t'as fait ça à distance?
Non, je suis revenu de Suisse.
Parce que là, il n'y avait pas les téléphones, il n'y avait pas rien. Là.
Rien de ça.
C'est des cassettes VHS.
Exact. Grosse cassette VHS. Fallait que t'aies ton gros kit pour te mettre en audition. Là, on faisait pas ça nous-mêmes.
Ah.
Et puis, c'est ça. J'ai été appelée à l'audition pour Lancé Compte et Jean-Claude Large débarquait quasiment de l'avion. J'ai rencontré Jean-Claude, que je ne connaissais, mais absolument pas. Là. Jean-Claude, c'était quand même un réalisateur québécois connu, oui, avec plusieurs succès. Parlez-nous d'amour, Bingo. Jean-Claude, il avait déjà roulé beaucoup sa bosse.
Mais avec
moi,
Lancé Compte...
de mes 15 ans, 16 ans, là, je le connaissais pas du tout.
Avec Lancé Compte, il a donné un coup de pied dans la canisse de la production télévisuelle.
Ben oui.
Et il a amené la télé dans les années 2000.
Complètement. Jean-Claude venait aussi du
jour au lendemain,
là.
Tous les autres shows de TV au Québec avaient l'air pas de budget, lent, mal réalisé à cause de lui.
Lancé Compte a changé la face de la télé au Québec.
Au complet.
C'est clair.
Point.
Là. Point. Puis c'est là que ça a commencé. C'est vraiment là. Puis oui, j'allais à l'école, mais finalement, j'ai lâché l'école. J'ai jamais eu mon diplôme de secondaire 5. J'avais coulé mon histoire.
Parce que t'étais en 5 quand t'as commencé?
Écoute, j'ai eu 17 ans sur le plateau de Lancé Compte. Moi, j'ai commencé à 16, puis j'ai eu 17 ans le janvier suivant. Et puis, j'avais des opportunités. J'étais passionnée de ce que je faisais. Jour 1 de tournage, de dire des mots, regarder dans les yeux de quelqu'un, jouer des émotions, c'était comme « Oh mon Dieu, Seigneur! » Mais ça, j'ai eu un coup de foudre pour ce métier-là, mais instantané. J'ai aussi été bien accueilli aussi par le milieu.
Puis c'est une chance complètement délirante que ton premier mandat, c'est de faire un des plus gros shows que le Québec a reconnu.
Mais ça, on le savait pas. On savait pas ça.
Vous avez vu la naïveté.
Ben
on fait un show de TV.
Puis on trippe, c'est un bon scénario.
Puis
ça parle de hockey,
ouais,
de la religion.
Puis moi, je vais être sa blonde, puis c'est normal.
Puis moi, je vais être
sa
soeur, je deviens sa blonde. Puis ben, maison. Puis tout ce que je regardais dans les textes. Puis là, on tournait double tournage aussi. On tournait français et anglais.
Ça, en même temps?
Ben oui, c'était double shoot qu'on appelle. Là.
Mm-hmm.
Alors, on tournait dans les deux langues.
Fait que tu faisais la scène, je t'aime,
coupé,
stop, ok, on prend, I love
on
you.
On change la claquette, puis...
Ah, oui.
Oh oui, c'était intense, là, tu sais.
Et toi, t'étais taillé sur mesure pour ça, parce qu'avec ta famille...
Ben moi, j'étais parfaitement bilingue.
T'étais fluente dans les deux langues, toi, là.
Fluente, oui, complètement. Ben oui, chez nous, on parlait français, puis j'allais à l'école en anglais. Moi, j'ai grandi comme ça toute ma vie. Puis je parlais aussi italien, parce que mon père, il était italien. J'ai encore à ce jour ma famille en Italie.
Ah, t'es une petite fille de Villemort.
Absolument, du sud-ouest. Fait que c'est là que ça a parti, puis de la passion, puis ça s'est enchaîné, ça a comme jamais arrêté. On a quand même tourné plusieurs séries de Lancé Compte, mais de ça, c'est ajouté d'autres séries aussi.
Parce que Lancé Compte a roulé, a arrêté, a reparti.
Ouais, ouais, écoute,
je pense que c'est la seule émission qui a fait toutes les diffuseurs. Là.
Oui.
Ça a été à Radio-Canada, à TQS, je pense, et à TVA
je
aussi.
Je pense que oui. Puis
je pense que vous êtes le seul à avoir fait les trois.
Oui, je pense que oui.
Fourette,
puis ça a été comme sur 30 ans. Je devais faire avec Jean-Claude Laure la série « L'art et le papier ».
Ouais.
Jean-Claude, finalement, s'est désisté et c'est Jean Baudin qui est rentré sur ce projet-là. On tournait ici, on tournait en France, on tournait en Suisse. C'est là que j'ai rencontré Jean Baudin, que je connaissais pas du tout, du tout. C'est là qu'on s'est connus. Et de là est venu, après Les Filles de Caleb, Émilie, avec Jean. Jean m'avait connu sur L'or et le papier, et là, il me relançait. Moi, j'avais jamais lu encore le roman d'Arlette Couture, et j'étais partie, genre, 3 mois, moi, en voilier dans les Grenadines. Puis je prenais mes messages sur mon répondeur une fois par semaine. Et Jean m'avait laissé un message, « Orsini, t'es où? J'ai un projet pour toi, rappelle-moi. » Fait que je l'avais rappelé.
Fait que toi, être ailleurs, ça te porte chance?
Ça m'a porté chance, oui, ça m'a porté film, chance. Hein? C'est vrai, t'as raison. Puis, ben, Les Filles de Caleb est arrivé. Puis, de ça est arrivé Seaway, aussi une autre série.
Ouais, mais attends, juste Les Filles de Caleb, ouais, tout seul, encapsulé. C'est le genre d'affaire que tu dis, j'aurais fait juste ça dans ma carrière, ouais. Puis ça aurait été déjà comme, wow!
Sur 2 ans de tournage, 190 jours de tournage. On n'a plus jamais revu ça après, puis on reverra plus
jamais. Non, mais c'est que la façon de produire... Il y avait du budget.
Il y avait 1 million de dollars par épisode.
Donc, écoute, en 90, 1 million.
À 1 million.
À ça, on te demande de faire une saison avec ce budget-là.
Exactement.
C'est fou.
Écoute, on avait. C'est ça. On avait 900 ou 1 million par épisode et on avait 8-9 jours de tournage par épisode. Aujourd'hui.
C'est pour ça que ça a l'air d'une série internationale.
Aujourd'hui, c'est 400 000 genre de budget par épisode puis on tourne en 4 jours. Fait c'est là, carrément la moitié, plus de 30 ans. Plus
on tard, veut une école, on fait une école.
C'est fou.
On a 2 chevaux qui vont bien. Trouve-moi des chevaux, trouve-moi un entraîneur. Ben oui, let's go.
Les Filles de Caleb, c'était majestueux. Puis même encore aujourd'hui, on va leur diffuser presque à chaque année.
C'est sûr.
Ça vieillit pas. Et ça, c'est rare. Ça, c'est exceptionnel de voir une série qui, t'as l'impression, ne vieillit pas, qui, t'as l'impression, a été peut-être tournée il y a 2 ans, 3 ans. Oui, l'époque. Ouais. Mais ça a tellement bien été fait. Bien tourné, bien réalisé, bien éclairé.
Les textes.
Les décors, les textes de Fernand Dansereau qui avait
adapté. Tout le monde
est bon. Tout le monde. Le casting était magnifique.
Le casting était magnifique, mais on dirait que, je sais pas ce qui s'est passé sur ce plateau-là.
Il y avait une
grâce. Tout le monde a donné quelque chose qu'il donnait pas sur d'autres shows.
Tu veux que je te dise c'est quoi? Et ça, je salue Lorraine Richard, qui est une de nos productrices à l'époque. Elle a toujours dit, Lorraine, savez-vous c'est quoi qui fait la différence des Filles de Caleb? C'est le petit plus de chacun d'entre vous. Et tout le monde, du gars qui roule les câbles au directeur de prod, au réalisateur, aux techniciens, aux électros, aux machinaux, tout le monde, il y avait une grâce sur ce plateau-là. Tout le monde faisait plus que ce qu'on lui demandait parce que tout le monde tripait. Premièrement, c'était notre histoire. C'est l'histoire du Québec qu'on est en train de raconter, qui, à l'époque, est encore plus jeune comme nation, comme histoire. Et je pense qu'on avait tous un lien, mais viscéral à ce projet-là. C'était comme si on racontait l'histoire de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Puis on voulait tellement la raconter.
Ouais, mais en même temps, au niveau du jeu, il y avait des affaires qu'on voit pas, qu'on voit plus. Il y avait des silences, il y avait des regards, il y avait des retenues, il y avait des non-dits.
Je pense que ça rendait vraiment justice à l'époque. Ouais. Tu sais, on a souvent dit, puis c'est vrai que c'est arrivé, puis ça arrive encore, moins. Mais juste le personnage de Caleb, joué par Germain Houde. Mm-hmm. Le lien entre la fille et le père.
Wow.
Tu sais, souvent, on a toujours dit, les pères, ils parlaient pas dans ce temps-là, ça parlait pas. C'est pas vrai, ça.
C'était des papas pas fins.
Il y a des pères qui étaient très proches de leurs enfants, puis qui communiquaient avec leurs enfants, puis qui les aimaient, puis qui leur montraient, là. On pourrait généraliser en disant, oui, c'était une époque, c'était une génération qui était plus renfermée. L'Église avait tellement un pouvoir, c'était fou. Mais ça existait, un personnage comme Caleb qui adorait sa fille, puis qui c'était son meilleur ami, en fait, tu sais. Alors, je pense que ça a donné comme une modernité, mais à quelque part, je me dis toujours, on dirait qu'on a rendu justesse à l'histoire du Québec, surtout beaucoup.
T'as dit tantôt, Lucille Teasdale.
J'ai braillé quand on m'a offert ce rôle-là.
Je veux comprendre, parce que ça a l'air d'être littéralement un pan de ta vie. C'est comme, tu sais, si on divise en... tu sais, des fois, en comptabilité, on fait des tartes, là, tu sais, là, 2%, 15%, une pointe de tarte. J'ai l'impression que Lucille Teasdale, c'est une pointe de tarte de la fille que j'ai devant moi.
Mais, hein.
Pourquoi? Comment? Raconte-moi ça.
Ben moi, à l'époque, mon amoureux, c'était un médecin, un urgentologue, puis on rêvait de partir dans les pays qu'on appelait à l'époque sous-développés.
Ouais.
Puis aller aider le monde dans la misère, puis creuser des puits, puis soigner le monde. Puis moi, je voulais prendre un cours d'aide aux bénéficiaires, une base d'infirmières à la limite. Puis
pour pouvoir aller réellement aider.
Aider avec lui aussi, puis soigner les gens, tu sais. Finalement, ce rêve-là, c'est jamais réalisé. Mais ça aussi, c'est une des grandes beautés de notre milieu, c'est que à travers nos personnages, on réalise bien des rêves aussi, puis on plonge dans des milieux auxquels on n'aurait jamais accès.
Tu as eu l'occasion de la rencontrer?
Non.
OK.
Parce que Lucille est morte au moment où on a commencé à tourner.
Parce que pour les gens qui ne la connaissent pas, c'est une femme qui a donné sa vie justement à l'Afrique et qui a contracté le sida en travaillant.
Exact.
Et qui en est décédée parce qu'à l'époque, il n'y avait pas ce qu'il y a maintenant.
Mais ça a été une des premières femmes chirurgiennes au Québec, Lucille Teasdale, dans un monde d'hommes qui voulait pas juste être médecin.
Qui aurait pu rester ici à se la couler douce, avoir une grosse maison.
Oui, elle faisait ses internats à Sainte-Justine. C'est là qu'elle a rencontré son mari, Piero Corti.
Elle a donné sa vie littéralement.
Oui. Lui, déjà, avait parti ce petit dispensaire-là en Ouganda. Donc, il y avait peut-être 10-15 lits, là. Lui, il avait parti ça là-bas. Lui était anesthésiste à la base, Piero. Et puis, il est tombé follement amoureux d'elle ici. Elle était en stage, donc, à Sainte-Justine. Puis, il l'a convaincu de venir travailler avec lui là-bas, en Ouganda. Puis, elle est partie, puis elle n'est jamais revenue. Et aujourd'hui, c'est le plus grand centre hospitalier en Afrique équatoriale. C'est le St. Mary's à Lachor, en Ouganda. C'est le plus gros hôpital qui existe. C'est devenu un pays, cet hôpital-là. Dirigé... Et c'est devenu un hôpital-école. Tous les médecins, toutes les infirmières, les chirurgiens, les spécialistes, ce sont tous des Ougandais. Ils ont transmis leur savoir, Lucille et Piero. Ils ont créé une école avec ça. Ils ont vraiment, eux autres, mis sur pied un pays, là. Et ça continue aujourd'hui. Puis c'est sa fille, Dominique, qui est médecin aussi, qui poursuit.
Puis toi, on t'a donné le rôle. C'était ton rêve de le faire. Et là,
L'Afrique, c'était mon père. Partir en Afrique, mon père, moi, tu sais, les animaux, j'ai tellement écouté des documentaires avec mon père, moi, le dimanche. Uh-huh. Il disait toujours, allume-toi en TV, mets-moi des animaux.
La mutuelle d'Omaha.
Ben, genre, là, tu sais, on écoutait tellement ça. Fait que moi, l'Afrique, c'est l'Afrique de mon enfance, dans ma tête, de tous les documentaires que j'ai vus. Fait que d'aller en Afrique, c'était une chose. De jouer une médecin, ça, j'avais déjà de l'expérience, puis j'avais joué dans l'urgence, puis j'étais une chirurgienne cardiaque, fait que j'avais fait bien des stages en salle d'op. Fait que j'étais comme prête à ça, je savais manier le scalpel et compagnie. Et puis, de partir comme une missionnaire, en fait. Puis écoute, quand je suis arrivée là-bas, là, j'ai passé 3 mois. On a tourné, nous, à Johannesburg, dans le sud, en Afrique du Sud, parce que c'était trop dangereux à l'époque d'aller en Ouganda. Et j'étais là 3 mois, et... J'oublierai jamais ça, d'ailleurs, pour ceux et celles qui l'ont vu. C'était un téléfilm pour CTV en anglais qu'on a tourné. Après ça, on l'a doublé, puis ça a passé pas assez souvent, je trouve. Là, parce que c'est vraiment
Est-ce qu'on peut le voir sur une plateforme à quelque part?
Honnêtement, je sais pas. Faudrait faire des recherches. Je sais pas si c'est rendu.
Parce que c'est pour les générations qui nous poussent dans le dos, c'est à voir.
Mais tu sais, aujourd'hui, il y a des bibliothèques Lucille Teasdale, il y a des écoles Lucille Teasdale, il y a des parcs Lucille Teasdale. Elle est devenue vraiment une icône québécoise, là, tu sais.
Puis parce que toi, t'es une rouge-jaune away dans le tapis, l'altruisme, let's go, l'idéologie, tu t'es pas contente.
J'étais tout désignée pour la jouer.
Oui, mais t'as pas juste vulgairement pris ton cachet puis rentré à la maison, t'as dit « OK, moi, je m'implique ».
Ben oui, moi, je suis la marraine depuis toujours.
Comme c'était évident.
Je suis la marraine du volet canadien de l'hôpital de Lucille, fait qu'on a fait souvent des levées de fonds. Beaucoup, beaucoup d'entreprises québécoises, dont les gens coutus que je salue, ont beaucoup, beaucoup aidé. L'hôpital de Lucille et de Piero en Afrique continue de le faire aussi. Puis oui, on a fait souvent des levées de fonds, des publicités, des documentaires pour garder cet hôpital-là, pour qu'elle puisse continuer à rouler. Il y a un volet en Italie, à Milan, parce que Piero, lui, c'est un Milanais, hein, donc la fondation a commencé là. Fait qu'il y a comme quelques petites niches là, dans le monde où on est là pour faire en sorte que l'hôpital puisse continuer à fonctionner.
Une autre pointe de tarte, c'est un peu ce qu'on est en train de faire là, être la assis, radio. Avoir un micro d'en face,
mon Dieu, des écouteurs sur la tête. D'ailleurs, c'est là qu'on s'écoute.
On s'est connus là, oui, absolument.
François, la radio,
oui.
Où tu venais?
Rock Détente!
D'abord Rock Détente, qui est devenu Rouge FM.
Absolument.
On a vécu la transition. Oh, oui, 10 ans de pur bonheur, la radio.
Comment tu t'es ramassé là?
Écoute, moi, j'ai toujours voulu faire de la radio. C'est un de mes médiums préférés.
OK, fait que la jeune mannequin regardait ça.
Moi, je faisais de la radio petite, François, dans ma chambre. Je faisais de la radio. J'ai des cassettes
avec
de
ton
ça.
Ton tape cassette, avec tu faisais Play Record.
Oui, je cachais mes affaires en dessous de la table, puis j'enregistrais ma mère au téléphone.
C'est quoi les émissions que tu faisais?
J'enregistrais ma mère, non. Ouais. J'enregistrais ses conversations. Je faisais des narrations, je lisais des livres à la radio. Là, c'est comme si je faisais de la lecture. Je faisais des entrevues. Vraiment, c'était dans
puis
moi
des entrevues avec
toujours.
Personne, genre, t'étais l'animatrice et l'invité?
Oui, avec personne, des fois avec mes cousines. J'ai tout ça sur cassette. Je te jure, j'ai une cassette qui me reste de ça. Et... un été, je joue au théâtre.
Les recherchistes de première fois, ils viennent de comprendre.
Oui, c'est ça.
Allô, Véro?
Oui, c'est ça. Et à un moment donné, je joue au théâtre avec André Robitaille. Et un jour, André, il me dit, Marine, il dit, toi, tu voudrais faire de la radio?
Il t'appelle Marine?
Oui, oui, oui. Il dit, parce que Serge, le père de mon fils, m'a toujours appelé Marine. Fait qu'il dit, toi, t'as pas déjà dit que tu voulais faire de la radio? Ben, je dis, mais hein, j'aimerais ça. Ben, il dit, t'aimerais pas ça t'en venir avec moi à Rock Détente le matin? Ben, j'ai dit, écoute, peut-être, mais là, tu te lèves à 4 heures du matin, là, quand oui. tu fais le matin. Oui. Là.
C'était Morning Man la moitié de ma vie.
Écoute, hein. Fait que ça a été une histoire d'amour, faire une longue histoire courte, une histoire d'amour de 10 ans, 2 ans le matin et 6 ans dans le retour, 8 ans dans le retour, dont presque 6 toute seule, 5 toute seule et 3 en co-animation dans le retour. Puis ça, là, je veux dire, ça va, je vais toujours vouloir faire de la radio. Je le dis, je le répète à qui veut l'entendre. C'est clair que je vais toujours vouloir faire de la radio.
Si on appelle ton agent, tu vas trouver un trou, tu vas dire oui.
Ben, ça se peut.
Et l'audio a quelque chose de magique parce que des fois, on appuie sur un bouton et on entend des affaires.
Oui. C'est quoi ça? Captain Smith and Pocahontas. Hey, ça, c'est mon fils.
Hein?
Pas croyable, hein?
Quand même!
C'est mon fils!
T'avais écoute, ça dedans ton ventre!
J'avais ça dedans mon ventre!
Là, c'est rendu une belle grande chose!
Ah mon Dieu, c'est hein? fou d'entendre quand même. Ça, là! Thomas, il a un talent extraordinaire. C'est sûr qu'il faut qu'il fasse ça. C'est sûr qu'il veut faire ça dans la vie, chanter.
OK.
Et c'est sûr qu'il faut qu'il fasse ça dans sa vie parce qu'il ne vit que pour ça. Il respire ça du matin au soir. Il se lève en chantant. Il se couche en chantant. Il écrit. Il fait ses vidéos comme ça.
Ouais, c'est
lui-même.
Un YouTuber.
C'est un YouTuber aussi. C'est un créatif à la base.
Ouais.
Et il a une voix absolument magnifique. Puis je suis tellement contente pour lui. Je suis extrêmement fière de lui. Mais je suis surtout contente pour lui parce qu'il a une passion. Puis tu sais, moi, j'ai été porte-parole pendant 25 ans de tel jeune. Maintenant, je m'occupe des parents avec la ligne parents. Et je me souviens de toutes les tournées que j'ai faites dans les écoles. Puis c'est resté, ça reste ça. La jeunesse, l'adolescence, puis là, la dernière année, on les salue, nos
facile.
Enfants, nos adolescents qui survivent à tout ça et qui nous en font suer aussi, là, très certainement. Mm-hmm. Les parents, c'est tellement pas facile. Mon vraiment chapeau aux jeunes qui réussissent à passer à travers ça. Mais quand t'as une passion...
C'est le plus beau cadeau de la vie. Il y a des gens qui en ont...
Passions.
J'ai eu des amis plus jeunes qui disaient « j'en ai pas de passion ».
Ah, mon Dieu, mais
c'est une catastrophe.
Il faut oui. avoir au moins une passion dans ta vie.
Oui.
Puis c'est ce qu'on a toujours voulu pour Thomas, Serge et moi. C'est d'ouvrir le grand livre de la vie puis de faire « Guerre, t'aimes-tu ça? » Donc, okay, t'aimes-tu ça? T'aimes-tu ça? Attends, tu pourrais peut-être faire ça. C'est ça
et
notre
ça,
job.
Aussi, comme oui. une infopub. T'sais.
C'est ça notre job comme oui. parent. T'sais. Et la musique est rentrée dans sa vie, dans ses veines, dans son corps, dans son être. Et il ne vit que pour ça. Puis je remercie la vie à tous les jours parce que, puis en plus, il a un talent magnifique. Mais surtout, il y a une voie, il y a un chemin devant lui. C'est là qu'il veut s'en aller. Mm-hmm. C'est quand on n'a pas de chemin, qu'on soit adolescent, jeune ou adulte, là, hein, en fait, ça s'adresse à tout le monde. Mais je trouve que les passions, ça nous donne une direction, ça nous donne un chemin, ça nous donne un sens.
Puis comme parent, tu sais où tu peux aider parce que tu vois où il s'en va.
Oui.
Fait que tu sais où aller pelleter pour que sa trail
oui,
soit correcte.
En même temps, il faut que tu le laisses pelleter.
Oui.
Puis le danger d'être dans le milieu.
Uh-huh.
Et on le sait, il est le fils de... Puis il faut que tu sois solide là pour
ouais.
vivre ça là, au départ. Mais Thomas, il est solide. C'est fou la force de caractère qu'il a.
Puis, j'ai pas le nom de Serge, mais je veux dire, vous êtes tous les deux, par là qu'on s'en va.
Oui, puis on fait est des travailleurs, nous autres. On est
oui.
exigeants, nous autres.
Oui,
moi,
clairement.
Je suis très exigeante.
Ouais.
Le succès, c'est du travail.
Ouais.
Travail.
Mm-hmm.
Tu veux du succès, travaille. Reprends-les tes pitons, prends ton crayon.
Vous voyez pas
écrit.
Ses yeux, elle me donne
ah
des ordres.
Mais je trouve
non, regarde,
que...
travaille.
Ben, c'est ça, ben, t'es un
ouais,
bel
travaille.
Exemple aussi. François, t'as travaillé fort toute
ah oui,
ta
non,
vie,
mais faut...
là,
oui,
t'sais.
Oui.
Non, non, mais on n'y arrive pas, mais on est quand même dans l'ère du temps,
ouais.
des téléréalités, on devient des vedettes en s'inscrivant dans des téléréalités et... Comprenez-moi bien, là, il y a des téléréalités absolument exceptionnelles. Genre,
ah, puis il y a des gens qui
Star
en ressortent
Academy,
et qui ont des carrières
voix,
après. Parce
bien ont, sûr.
Mais ceux qui en ont, ceux qui auront une carrière travailleront. Mathieu Baron est un bon exemple. Il était le douche dans une téléréalité, mais en sortant, il a fait « Moi, je veux devenir comédien. Je vais apprendre mon métier. »
Puis il avait un talent.
Il avait un talent.
Puis c'est ça. Donc, quand c'est une téléréalité où on parle de talent, mm-hmm. ça, je trouve que c'est une vitrine exceptionnelle. Mais il y a d'autres téléréalités où tu fais comme garde. C'est ça qu'on transmet transmet à nos enfants, à notre génération, avec
ses valeurs. C'est mon plaisir de parler, j'aime bien, par exemple.
Ouais, ouais. Moi, j'ai bien de la misère.
Gazer les valeurs, là, ça marche pas.
Il reste que nos enfants, là, nos jeunes, nos adolescents grandissent dans cette ère-là. Fait qu'il faut surtout pas oublier de leur dire « Allô? » C'est parce que ça, c'est un écran, puis c'est pas la vraie vie, là, c'est pas ça, réussir dans la vie, là.
Clairement.
Puis pour réussir, faut que tu travailles, fait qu'il faut que t'y mettes les heures. Puis oui, moi, j'ai réussi dans ma vie, j'ai commencé à réussir, mais j'ai travaillé fort en calvaire pour faire ce que je fais et pour être rendu où je suis rendu aujourd'hui dans ma vie. Moi, à 15 ans, mes amis étaient dans des bars, allaient danser. Moi, le samedi soir, j'étudiais jusqu'à minuit parce que je me levais à 6 pour aller tourner 14 heures dans ma journée.
Clairement.
C'est un choix, là, puis une passion, puis dans le fond, j'ai pas de mérite. C'est ça que ça demandait.
Mais quand on est comme toi, ça veut dire qu'on est une rouge, on aime avoir des défis, on aime ça quand c'est compliqué, mais on veut aider le monde, puis on a l'altruisme, les idées, ou on se ramasse à deuxième chance?
Mmh.
Hein?
On se ramasse à faire du deuxième chance, c'est clair.
C'est clair?
Ben oui.
T'es arrivé où dans le parcours? Ils ont pensé au show, puis ça, t'étais là avant.
Je les ai connus. En fait, c'est Guillaume L'Espérance, le producteur qui produit, entre autres, Tout le monde en parle et plusieurs projets. Guillaume, le projet qui nous a fait connaître l'un à l'autre vraiment, c'est Qui êtes-vous, qui est une série que Guillaume a produit, je sais pas si les gens se souviennent, il y a quelques années à Radio-Canada, une série où on allait sur les traces de nos ancêtres, donc des personnalités connues. Il y a eu moi, il y a eu Guillaume Lepage, Patrice Lécuyer, je pense, on était une méchante gang là, où on allait vraiment sur les traces de nos ancêtres. Alors moi, on est allé en Écosse voir les racines des Young. Ma mère, c'est une Young. On est allé en Italie voir les racines des Orsini. Bref, c'est Guillaume qui produisait ça. Fait qu'on s'est quand même côtoyés indirectement pendant plusieurs semaines. On a fait les voyages ensemble. Puis c'est là qu'on s'est connus. Puis à un moment donné, il a vu ce concept-là, parce qu'il existe déjà ce concept-là de deuxième chance qui s'appelle « The Gift » du côté des Britanniques, en fait. Mm-hmm. C'est un show de la BBC qui s'appelle « Le cadeau ». Et lui a acheté les droits pour faire cette série-là ici. Puis il m'a appelé, puis il a appelé Patrick Lagacé, puis il a dit « ça vous tente dessus ». Je pense que c'est avec « Qui êtes-vous » que Guillaume a vu la personne que j'étais. Puis oui, l'expérience radio, tout ça, l'expérience de la télé comme animateur, ça en prenait, tu sais. Et c'est lui qui m'a appelé pour me dire « je fais ça, j'aimerais ça que ce soit toi », puis j'ai dit oui.
Mais là, un show comme ça, là, nous, assis en patate de sofa, là...
Ouais.
Le...
Qui braillait.
La télé me fait tellement pleurer. Là.
Oui?
Je suis bon broyeur de TV et j'aime ça parce que ça fait sortir mon méchant que j'ai accumulé.
Bon public, ça c'est le fun.
Je boude pas mon plaisir. Moi, j'écoute la télé-réalité, bon. Je pleure dans ton show. Je suis all-in, comme dirait l'autre.
C'est merveilleux.
Mais la job qu'il doit avoir derrière ces minutes de télé-là, c'est fou.
Surtout de recherche. On doit tout aux recherchistes. Je salue Manuel Légaré. Toute l'équipe.
Il faut avoir des couilles, en bon français, dans le sens... Tout le monde, le diffuseur, les recherchistes, toi qui es en avant, parce que vous partez avec un sujet, puis habituellement, en TV, il faut que tu saches en maudit où tu vas te ramasser. Là, clairement, vous partez des affaires, puis vous n'avez pas tout le temps finalité.
Exact. Puis souvent, on a les réponses là, direct, pendant que la caméra tourne, parce qu'ils nous cachent des choses à nous aussi, les animateurs.
Ouais, ben
parce qu'ils veulent, ils veulent qu'on réagisse, de faire comme, hein, c'est lui, c'est elle, on l'a trouvé. Ils veulent la spontanéité de tout ça. Fait qu'on nous cache aussi des affaires. On sait bien des affaires. Oui, il y a un scénario, si on veut, on a une histoire à raconter. Mais à travers ça, c'est beaucoup d'improvisation, parce que quand tu t'assois avec la participante ou le participant, puis tu dis « vous avez perdu votre mère à l'âge de 8 ans, ça a été atroce, elle est décédée dans un feu, racontez-moi. » Tu sais pas comment la personne, elle va le raconter. On répète pas ça, là, on s'est jamais vu.
Ouais.
Fait que ça crée encore là, ça crée des liens, puis ces liens-là se créent en amont. Tu sais, quand je dis la recherche, là, c'est le cœur, c'est les recherchistes là, qui créent ce lien-là avec les participants au départ. Puis nous, après ça, c'est nous qui prenons leur main, puis on dit « OK, prends ma main, puis je fais le voyage avec toi. »
Cette année, vous avez décidé d'aller aussi dans des pas « happy end ».
Oui, on avait de ça aussi, puis on en a toujours de ça.
J'ai l'impression que c'est un peu plus clair dans le storytelling cette année. Ouais.
On trouvera peut-être pas la réponse que tu veux. Puis t'es-tu prêt? Malgré tout, à faire la démarche, puis que peut-être que ça va être négatif. Ça, les gens sont avertis dès le départ. Puis ça, on a des psychologues aussi qui sont là avec nous pour encadrer ces gens-là dans le besoin. Là, on les laisse pas aller à la dérive. Là, c'est extrêmement encadré et structuré, deuxième chance. Là, au niveau... C'est des humains. On est en documentaire. Là. On n'est pas en télé-réalité. Non. On n'est pas là pour faire du fantastique ou du spectaculaire. Là. On est là dans l'humain. On est dans le cœur des humains. Puis c'est un grand privilège de faire cette émission-là. Puis depuis, tu vois, c'est notre quatrième saison qui est diffusée. Et ça fait 4 ans que chaque fois qu'on embarque sur un projet, qu'on embarque dans une histoire, on ressort de là tout le temps un peu changé.
Hey, Madame Orsini.
Oui, Monsieur Charron.
Merci beaucoup de vous être déposée ici.
Merci vraiment. De l'invitation. Vraiment, clairement. Ça m'a fait chaud au cœur.
T'es à la fin de ton sprint. Ouais. Au moment où on enregistre, là, dans quelques jours, là, Madame va prendre une couple de semaines pour elle. Là.
Ça va être bon. Je vais aller à la campagne.
On déplogue.
Je vais aller skier. Je vais juste m'arrêter. Juste vivre puis recommencer dans le plaisir. Je vais vraiment... Ça va être parfait.
Et quand tu seras devant ton foyer ou une source de chaleur, un soir de froid, je veux que tu dises haut et fort le nom du balado. Puis si tu t'en rappelles pas, je t'ai mis un cue card qui est juste là.
Ben, c'est dur à dire. La vie est belle. Merci, François Charron.
C'était La vie est belle. À la prochaine.